continent avec Elgas.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrique Mémoire dans le continent, avec toujours à l'horizon les faits, les dates, les grands hommes et femmes du continent, racontés par des chercheurs, des écrivains, des témoins, et avec toujours cette même boussole, l'Afrique par elle-même et dans les courants du monde. Allons aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. 30 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, nous entrons aujourd'hui dans un cycle de commémoration en ce mois d'avril 2024. La mémoire, la transmission, expliquer inlassablement pour comprendre et surtout ne pas oublier. Et pour comprendre, je vous emmène aujourd'hui dans un passé à la fois lointain et proche du Rwanda, dans la période coloniale d'abord, où les stéréotypes et les représentations sur l'ethnie vont progressivement semer le venin de la division. Ensuite, à la fin des années 50, où une révolution, on reviendra sur l'opportunité d'utiliser ce terme, Rwanda va cheminer avec les premières dynamiques génocidaires contre la minorité Tutsi. Je vous raconte cette histoire en compagnie de l'historienne Hélène Dumas. Hélène Dumas, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci à vous, vous êtes en duplex depuis Kigali. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes historienne, spécialiste du génocide des Tutsis. Vous êtes également chargée de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique en France. Avec vous, nous allons aujourd'hui étirer la perspective historique de ce génocide en particulier et examiner les dynamiques qui vont y conduire. Je rappelle que votre dernier livre, publié aux éditions La Découverte en 2020, s'intitule « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis ». Et nous devions être avec Dorcy Rugamba, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc nous ferons l'émission avec vous et nous sommes ravis de vous avoir. Et je voudrais qu'on commence par interroger l'histoire coloniale dont on a hérité pas mal de stéréotypes ethniques et raciaux qui ont, on peut le dire ainsi, largement contribué à semer cette haine. Comment cette ethnicisation, chère Hélène Dumas, a-t-elle commencé et prospéré au Rwanda et qui en étaient les instigateurs?
Oui, alors d'abord, il faut savoir que le Rwanda est un des tout derniers pays d'Afrique à être découvert, avec beaucoup de guillemets, par les explorateurs, par les colonisateurs et puis les missionnaires européens à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et que c'est un pays qui déjà porte sa charge de fantasme, puisque le pays est censé renfermer les sources du Nil. Et les premiers colonisateurs sont les Allemands, mais ils vont rester très peu de temps. Et c'est ensuite les Belges, au cours de la Première Guerre mondiale, qui prennent pied au Rwanda. Et c'est à partir de cette colonisation belge et également de l'entreprise d'évangélisation entreprise par l'Église catholique donc au début du XXe siècle qu'un certain nombre de stéréotypes racistes vont être importés, distillés dans la société rwandaise, dont il faut rappeler ici que tous les Rwandais partagent la même langue, les mêmes croyances religieuses et le même territoire et sont sujets d'un seul royaume au moment où arrivent les premiers Européens.
Comment elle va s'opérer justement ce venin de la division? La division va s'installer, justement colorer les consciences. Vous avez rappelé l'arrivée des Belges, la colonisation allemande. Comment dans les consciences on va fabriquer justement sur cette unité qui préexistait cette idée de la division raciale et ethnique?
Jean-Pierre Chrétien, qui est le grand spécialiste, l'historien, le grand spécialiste de cette histoire intellectuelle du racisme au Rwanda, parle pour qualifier les relations entre les premiers Européens et l'aristocratie Tutsi de la cour de choc esthétique. Et je crois que c'est très important parce que ces Européens, lorsqu'ils prennent pied au Rwanda, eh bien, ils sont confrontés à une forme de civilisation, à des esthétiques aussi, des corps qui, dans leur représentation de l'Afrique, eh bien, ne coïncident pas avec les portraits, on va dire, les stéréotypes raciaux qu'ils ont sur l'ensemble des populations africaines. Et comme ils voient ces Tutsis très grands, avec des allures extrêmement altières, un nez très fin, une peau plus claire, ils vont interpréter ces différences corporelles comme des différences raciales. Et peu à peu vont se conjuguer des théories qui vont donner lieu à ce qu'on appelle le mythe amitique. Les Tutsis ne seraient pas une race entre guillemets africaine, autochtone, mais ce serait une race cousine des Blancs, hein, qui aurait son origine vers le Caucase et serait descendue vers les sources du Nil en se négligeant, évidemment, je mets toujours des guillemets, hein, à ces termes qui sont donc issus de la langue raciste coloniale. Et c'est ainsi que les Tutsis et les Hutus sont forgés, non pas comme des groupes sociaux qu'ils étaient avant, mais comme des ethnies ou des races.
Vous faites bien de faire ces précisions-là, parce que quand on lit ce qui existe dans la littérature et qui commence maintenant à infuser dans le savoir collectif, un livre en particulier, Au cœur de l'ethnie, qui a été co-signé par Jean-Lou Amsel et Eliki Ambokolo, on revenait justement déjà sur la construction de l'ethnie. Je vous propose qu'on aille un peu avant pour justement, vous avez commencé à l'évoquer, la cohabitation ethnique avant, l'unicité linguistique, le Kinyarwanda par exemple dans le pays. Comment vivaient les ethnies avant justement qu'on arrive à codifier cette séparation?
C'est difficile de parler d'ethnie, d'ailleurs, avant l'arrivée des colonisateurs belges et des missionnaires catholiques. Puisque si on veut être précis, avant l'arrivée des Européens rwandais, il n'y a qu'une seule ethnie, c'est celle des Banyarwanda, des Rwandais, hein, précisément parce que il y a une unité culturelle qui est forgée autour d'une langue commune, le Kinyarwanda, qui donne naissance à des formes de littérature, de poésie, qui, pour certaines d'entre elles, sont datées du XVIe siècle. Cette culture commune englobe les différents groupes sociaux qui forment le Rwanda. Et évidemment, c'est un royaume qui a une histoire, qui n'a pas qu'une histoire pacifique. Hein. Il y a eu également des conflits, notamment pour l'extension territoriale du territoire rwandais. Mais les conflits ne se structuraient pas autour de cette division construite par la colonisation. Il y avait des divisions d'ordre politique au sein même de l'aristocratie Tutsi. Et ces catégories Hutu et Tutsi étaient labiles. Ça, c'est très important. On pouvait devenir Tutsi et tout comme on pouvait devenir Hutu en fonction de sa richesse et évidemment des services que l'on pouvait rendre au royaume central. Donc ces catégories n'ont pas du tout la même signification, la même nature avant l'arrivée des Européens et après l'arrivée des Européens.
Ces représentations d'ailleurs sont si tenaces qu'elles vont bénéficier de relais médiatiques à l'époque et les termes qu'on utilise sont déjà éloquents. Je vous propose cet extrait.
Les Belges, après les déboires consécutifs à l'accession à l'indépendance de l'ancien Congo belge, sont extrêmement pressés de mettre un terme à la tutelle qu'ils exercent sur les deux petits territoires qui jusqu'à présent ne leur ont causé que des ennuis.
En particulier le Rwanda, parce qu'il faut se rappeler que le Rwanda est depuis plusieurs années le siège de très violentes émeutes qui ne dressent que politiquement les Hutus, le peuple serf des Hutus, contre ses maîtres féodaux, les Tutsis, mais qui, par contre, ont été marqués par des attentats de toutes sortes, perpétrés sur l'ordre des Tutsis, en particulier par leurs serfs, qui sont en même temps leurs bouffons et leurs bourreaux, et leurs amis, les petits pygmoïdes, les petits pygmées batois. On se rappelle que cela a coûté beaucoup de sang, beaucoup de villages brûlés.
Cette archive, elle date des années 60, chère Hélène Dumas, le langage est sans détour, il reprend les termes de cette division qu'on a commencé à évoquer. Est-ce que toute violence génocidaire commence d'abord par le troncage des mots?
Oui, je crois que c'est très important de revenir à cette grammaire politique et raciste qui vient se cristalliser à la fin des années 50 et au tout début des années 60, donc au moment de l'accession du Rwanda à l'indépendance. L'histoire de l'accession à l'indépendance du Rwanda est très particulière au regard de celle du continent parce que ce clivage socio-racial devient le principal clivage de la vie politique rwandaise à cette période. Et tout le social, tout le politique est pensé à travers des représentations racistes celle d'une majorité avec beaucoup de guillemets raciales ou tout, contre eh bien, le monopole politique d'une autre race qui est celle des Tutsis. Voilà quel est le langage politique de l'époque. Et elle enseigne d'ailleurs que les partis politiques hutus, en particulier le Parmehutu, hutu, hein, qui a à sa tête le Grégoire Kayibanda, qui deviendra le premier président du Rwanda indépendant, eh bien, appelle les Belges à rester au Rwanda et à ne pas décréter tout de suite l'indépendance, puisque je cite ici le manifeste des Bahutus de mars 1957, où il est écrit « La suppression du colonialisme blanc-noir laisserait un colonialisme pire du Hamite, c'est-à-dire des Tutsis, sur le Mutu, sur le Hutu. » Donc vous voyez comment ce mythe hamitique qui fait des Tutsis, des étrangers, des allochtones, eh bien, est repris dans cette propagande politique et les Tutsis sont perçus comme des colonisateurs.
Afrique, mémoire d'un continent.
Afrique, mémoire d'un continent, reçoit l'historienne Hélène Dumas, spécialiste du Rwanda. Ses représentations sur l'ethnie, comme on vient de le voir, vont s'ancrer, voire s'enraciner dans les consciences. Elle simplifie et schématise ainsi le Rwanda. Les féodaux tutsis au pouvoir d'un côté et leurs serviteurs hutus exclus de l'autre. À la fin des années 50, en 1959 exactement, une révolution, terme sur lequel on reviendra, s'enclenche. Elle va mettre en scène, en pleine période de décolonisation à l'échelle du continent, plusieurs acteurs. Les Hutus, les Tutsis, mais surtout l'Église, les Belges, soutien actif de cette séquence qui va précipiter l'avènement de la transition entre la monarchie et la République, mais qui va également précipiter un nettoyage ethnique contre les Tutsis. Hélène Dumas, je voudrais d'abord qu'on parle de terminologie. Quels sont les bons termes à utiliser pour être quitte avec l'histoire ? En 1959, ce qui se produit au Rwanda peut-il être qualifié de révolution ?
Je crois que le problème n'est pas tant le terme « révolution » que les adjectifs qu'on lui accole. Dans l'esprit de ceux qui mènent cette révolution, il s'agit d'une révolution tout à fait légitime, sociale, puisque la majorité, donc ce peuple qui est défini non politiquement mais racialement, cette majorité raciale des Hutus, eh bien, finalement, ne fait que, eh bien, à l'image de la Révolution française, abattre les privilèges et puis reprendre le pouvoir sur ces féodaux. Vous voyez un peu aussi le jeu de miroir sémantique avec l'histoire européenne et puis l'histoire de France en particulier. En vérité, il s'agit d'une révolution socio-raciale, comme l'ont bien démontré d'ailleurs Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kawanda. Une révolution socio-raciale parce que, encore une fois, le social est lu au prisme de la race. Et c'est bien au nom de leur supériorité, de leur majorité raciale, que les Hutus fondent leur légitimité politique. Donc, c'est un moment charnière dans l'histoire du Rwanda et dans la longue histoire du génocide des Tutsis, puisqu'il est précédé d'un certain nombre de pogroms. Et les premiers pogroms contre les Tutsis ont lieu en novembre 1959, sur fond de ces revendications qui sont...
On y reviendra, Hélène Dumas. Je voudrais qu'on parle, vous avez commencé à le mentionner d'ailleurs, de composition politique de l'époque, 1959, donc de ce manifeste Bahutu et le Parmehutu, et aussi justement toute cette dynamique politique qui va conduire Grégoire Kayibanda à la tête de la jeune République rwandaise en 1960. On sort de la monarchie. Justement, je voudrais qu'on revienne pour donner de la matière à nos auditeurs pour comprendre quelles forces étaient en bataille pendant cette période-là. D'abord sur le champ politique.
Sur le champ politique, il y a plusieurs forces qui sont en rivalité à partir de septembre 1959 quand les partis politiques sont autorisés par la tutelle belge. Il y a d'abord le Parmehutu, le parti pour l'émancipation de la masse Hutu, qui est dirigé par Grégoire Kayibanda. Et puis d'autres partis également vont revendiquer la prise du pouvoir exclusive par les Hutus, donc des partis comme la Prozoma. À l'autre bout du spectre politique, l'Union nationale rwandaise, l'UNAR, qui est un parti nationaliste dans lequel se recrutent aussi bien des Tutsis que des Hutus. C'est important de le dire. Et d'ailleurs, le chef de l'UNAR qui est resté au Rwanda après 1959 Sera assassiné en 1963 par le régime de Kayibanda. Donc vous voyez, le jeu politique est extrêmement complexe et l'Union nationale rwandaise est avant tout un parti qui revendique l'indépendance immédiate du pays.
On ne peut pas manquer d'ailleurs de faire un point aussi sur le rôle des Occidentaux pendant cette période, Hélène Dumas. Durant cette révolution, les Belges vont soutenir activement les révolutionnaires, entre guillemets, Hutus, et un soutien manifeste aussi de l'Église. Quel a été ce rôle-là, ce soutien? En quoi il a été décisif, justement, pour l'accession de ce pouvoir?
Il a porté, si vous voulez, Grégoire Kayibanda au pouvoir, puisque on va dire l'Église catholique en tant qu'institution est une force politique à ce moment-là au Rwanda, et Monseigneur Perraudin est un des plus fervents soutiens de la révolution Hutu à cette époque. Ce qui ne préjuge pas de l'attitude des prêtres, du clergé, pendant les massacres, en particulier ceux de 1963. Donc, l'Église catholique et évidemment la tutelle belge, qui, elle, dispose aussi de la force publique, tout simplement des moyens de maintien de l'ordre, et puis donc, une force politique, évidemment, qui va soutenir, porter ce mouvement de Grégoire Kayibanda et qui va complètement renverser même le jeu politique qu'ils avaient eux-mêmes mis en place au moment où ils ont pris le Rwanda dans leur giron colonial.
Le changement de pouvoir aussi va affecter la monarchie avec la mort du roi, du Mwami Mutara. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet écran? Est-ce que ça a eu aussi une importance dans la transition et ce qui s'est passé pendant cette période? Hélène Dumas.
Oui, il me semble que le vide politique laissé par la mort du roi Mutara Rudahigwa en juillet 1959, et puis toutes les zones d'ombre qui entourent cette disparition brutale, a laissé un vide politique très, très important au moment où peut-être la figure du roi eût été plus fédératrice pour le pays. Il faut savoir que le roi Mutara Rudahigwa était aussi un nationaliste convaincu qui, par ailleurs, au moment où le manifeste des Bahutus était envoyé aux Nations Unies par le Barney Hutu, avait envoyé, lui, une lettre aux résidents belges au Rwanda pour demander la suppression des mentions raciales sur les documents d'identité, en expliquant que ces mentions raciales, Hutu, Tutsi, Hutua, n'avaient absolument aucune légitimité ni aucune réalité sociale ou encore moins biologique. Donc vous voyez, il y avait des figures politiques sur la scène politique rwandaise à cette époque, et évidemment la mort du roi Mutara Rudahigwa a laissé un vide.
Oui, et d'ailleurs, au-delà de ces divisions, on sent aussi qu'il y avait une unité, on peut l'appeler aussi décoloniale, d'une certaine manière, où on a voulu aussi avoir des transitions qui allaient au-delà justement des seules questions internes et ethniques. Est-ce qu'il y a un élément fédérateur dans cette période-là, par-delà justement les seules barrières ethniques?
Bien sûr, et on parlait tout de suite de la figure du roi. Il y a au Rwanda, en particulier dans les territoires qui sont liés à la monarchie centrale, le territoire de Nyanza, en 1959, des personnes, aussi bien Hutu que Tutsi, qui vont s'en prendre aux partisans du Parmé Hutu ou de la Prozoma parce qu'ils sont contre le roi. Donc il y a également dans certaines régions du pays une fidélité politique à la monarchie.
On va marquer ici une pause et au retour, on parlera justement des conséquences dramatiques de cette révolution, des milliers de personnes massacrées, de déplacés. On se retrouve juste après un point complet sur l'actualité sur RFI. J'en profite pour rappeler un changement d'horaire. Afrique, mémoire d'un continent, désormais c'est le dimanche 8h10, temps universel. Et le samedi, à la même heure, vous retrouverez désormais le débat africain animé par Namori Dosso.
D'un continent. Avec Elgas.
De retour dans Afrique, mémoire d'un continent, et toujours en compagnie de Hélène Dumas depuis Kigali, historienne, spécialiste du Rwanda. Nous parlons aujourd'hui des événements de 1959 au Rwanda qui ont conduit à près de 400 000 déplacés Tutsis et à des milliers et des milliers de morts. Justement, on va essayer de comprendre. Et ces actualités ont pris déjà une tonalité qui avait donné déjà lieu à des reportages. Je vous propose d'écouter cet extrait qui date de 1959.
Oui, voilà ce qu'on sait de plus clair au moment précis où nous parlons sur les malheureux événements du Rwanda-Urundi. 600 incendiaires ont été arrêtés depuis 3 jours dans la partie nord du Rwanda, qui est maintenant presque complètement la proie des flammes. C'est ce qu'annoncent les forces belges du Rwanda-Urundi. Des centaines de Watutsi, avec leurs femmes et leurs enfants, s'enfuient devant l'offensive générale des Bahutu, et certains d'entre eux ont même franchi la frontière de l'Ouganda. Et en revanche, des Watutsi sont passés de l'autre côté de la frontière du Rwanda-Urundi et ont massacré toute la famille d'un chef Bahutu. Les troupes belges sont sur place, on envoie encore des renforts, et il y a notamment là-bas des parachutistes belges. C'est tout ce qu'on sait pour le moment.
Alors, Hélène Dumas, on le voit ainsi, on sent ici une couverture, on peut le dire ainsi, un peu partielle. Que vous inspire cette actualité ?
Ouais, elle est très marquée par son époque, bien évidemment, mais on peut percevoir à travers le commentaire de ce journaliste déjà hein, les ferments de cette tragédie qui se joue en 1959, cette tragédie humaine, hein, puisque il parle essentiellement, voilà, du nord-ouest du Rwanda qui est la partie du pays la plus touchée hein, par les violences, par les massacres en novembre 1959. Qui provoque donc des exils à la fois extérieurs, puisqu'il y a des dizaines de milliers de Tutsis qui fuient en Ouganda, mais aussi des exils intérieurs, puisque une grande partie de cette population va être ensuite déportée de force dans une région du sud du Rwanda qu'on appelle le Bugesera et qui est à l'époque une région particulièrement hostile sur le plan de sa géographie, et les Tutsis vont être déplacés. Il y a une forme d'ingénierie socio-raciale, si vous voulez, qui se met en place dès 1959. Et ici, on peut penser au document qu'a envoyé à cette époque, un télégramme envoyé par Grégoire Kayibanda aux Nations Unies, qui déjà...
Le président de l'époque ?
Tout à fait. Enfin, celui qui deviendra président au moment de l'indépendance, le 1er juillet 1962, il explique qu'il faut créer des zones géographiques racialement pures. Voilà, déjà en 1959, ces violences répondent à un projet politique. Ce ne sont pas des violences qui surgissent du fin fond des paysanneries. Il y a aussi un projet d'ingénierie raciste qui est porté par les élites politiques de cette époque.
On manque encore de chiffres très précis justement sur l'ampleur des exactions. Vous avez commencé à le faire. Je vous propose d'ailleurs qu'on continue, qu'on aille justement comprendre quelle a été la grande étendue des massacres et des déplacements. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'ampleur des exactions qui ont été commises pendant cette période ?
Alors c'est très difficile pour 1959, il faudrait pouvoir, il y a encore beaucoup de travail à mener pour les historiennes et les historiens sur cette période, et il y a notamment un fonds d'archives qui a encore été assez peu exploité, qui est celui du Haut Commissariat aux réfugiés, et peut-être qu'on trouverait des chiffres plus précis dans ces archives qui se trouvent à Genève. Pour ma part, je travaille plus précisément sur les massacres qui ont lieu après l'indépendance, à la Noël 1963, les massacres particulièrement proche, on va dire, d'une entreprise de génocide, et le terme est employé hein, dès cette époque. Il est très difficile d'avoir des chiffres également précis hein, sur ces massacres qui ont lieu donc, dans une région du sud qui est la nouvelle préfecture de Gikongoro, parce que les sources sont très parcellaires. On a des enquêtes qui sont menées par le délégué du comité international de la Croix-Rouge, dès janvier 64, qui s'appuie sur les chiffres qui sont fournis par les missions catholiques, où là, les prêtres, les pères blancs ont défendu, armes à la main, les réfugiés Tutsis qui se regroupaient au sein de leur paroisse. Donc vous voyez, le rôle de l'Église catholique, c'est pas un rôle institutionnel, il faut aussi voir ce qui se passe dans le clergé. Par exemple, pour la paroisse de Kadoua, sur laquelle je travaille, il est fait état dans les sources du CICR de 1600 victimes, et de 4600 réfugiés à la paroisse. Alors évidemment, ces chiffres ne rendent pas compte de l'ampleur des massacres, puisque beaucoup de personnes ont été tuées en dehors des frontières de la paroisse, et même la majorité des victimes ont été assassinées en dehors des frontières de la paroisse. Et par ailleurs, ces chiffres ne reposent que sur les registres de baptême. Donc toutes les personnes qui ont été assassinées et qui n'avaient pas été baptisées ne sont pas comptabilisées par ces rapports du CICR.
Oui, on évoque les victimes. Est-ce que vous pouvez aussi évoquer les déplacés ?
Oui, alors évidemment, ces violences entraînent dans leur sillage des mouvements d'exil extrêmement importants. Là encore, il y a un immense travail à mener. Ce que l'on sait, c'est qu'à la fin des années 1980, c'est la communauté Tutsi, en tout cas réfugiée dans les pays limitrophes et plus au-delà, représente entre 500 et 600 000 personnes. Donc c'est une communauté de réfugiés extrêmement importante. Et cette communauté de réfugiés, eh bien, elle a été chassée du pays dans les années 60 et aussi en 1973, juste avant la prise de pouvoir par Juvénal Habyarimana au mois de juillet 1973.
Hélène Dumas, peut-on dire, avec ces événements, leur ampleur qui s'étale de 1959 à 1963-64, l'idéologie à laquelle ils sont adossés aussi marque le début, plus ou moins formel, de génocide. Est-ce qu'on peut le dire ainsi ?
C'est difficile quand on est historien. Il y a un biais dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire de prendre le génocide des Tutsis de 1994 comme un fait inéluctable, puisque ce qui s'est passé en 1963-1964. Et dans le même temps, lorsqu'on étudie de manière précise ce qui s'est produit à ce moment-là dans la préfecture de Gikongoro, on est saisi par les parallèles avec 1994. Il y en a plusieurs. D'abord, la violence vise d'abord les hommes, comme en 1994, au titre de combattants fantasmés d'une armée Tutsi en exil, et puis, mais elle touche aussi les femmes et les enfants. Et ça me paraît être un critère de définition, d'une bascule dans une violence qui est d'une autre nature que la violence de guerre. Les femmes et les enfants n'appartiennent pas au monde combattant, et en 1963-64, les femmes sont violées, c'est écrit de manière beaucoup plus euphémisée dans les sources, mais le viol est présent. Et les enfants orphelins Tutsi sont ensuite en quelque sorte enlevés dans des familles, ou par des familles Hutu, pour servir de domestiques dans ces familles. Et déjà en 1963-1964, les sources, encore une fois, du CICR, qui est pourtant une institution très prudente dans l'emploi des termes, parlent de génocide. Et lorsqu'on regarde la presse de l'époque, le terme de génocide est régulièrement avancé. Ces massacres ont été largement dénoncés par la presse internationale. Dans un article du Guardian qui date du 12 février, je crois, 1964, il y a un dessin de presse titré « The Final Solution », la solution finale. Donc vous voyez, toute la terminologie aussi issue de l'extermination des Juifs d'Europe entre 1941 et 1945 est reprise pour désigner ce qui se produit au Rwanda. Donc, je pense qu'il y a des liens très forts entre ce qui s'est produit durant les années 60 et puis ce qu'on va voir ressurgir à partir de 1990. Le génocide des Tutsis de 1994 n'apparaît pas de manière soudaine à l'horizon de l'histoire contemporaine du Rwanda. Il s'inscrit dans une histoire qui est marquée par toute une série de massacres et parfois de massacres de nature génocidaire tout au long de l'histoire de ce pays.
La mémoire rwandaise vibre dans la voix de Bernard Rugindiri, témoin de l'histoire qui passe, avec cette voix qui défie la catastrophe.
Nyamari yakuje bigango uri mwiza nkuza ya mwezi yoi Winya, Winya, Zero, hey, ho, mwiza mpuza ya mwezi yoyi Ruduga batumbura kanje bagana wose babye ruho na marambo rwivunije intaganda Nkuza kirima yakugujye nyamurage ibyo ariho turigenga Nkuza rudatibana imbaraga ingano zitungwe n'amakuzo ndutenere ibyembe ni muhorandu wa hamyambuga nari hanganye Mumbuga ya muhanda ngabo muhoza ati mbonye umuvunyi muzima nakimiserushye gurwamahesha muri ngure babatanu bingomba yingo ndi ya rwemeranzi go ndi butobwe ntawe ntibuzo gukora n'icyo kumudege byo wa mwana ajyanye na gapara ngiye tama
Hélène Dumas, vous travaillez pour la mémoire, on vient d'écouter Inkouza de Bernard Ugindri. La mémoire, la transmission, comment l'histoire récente et la culture au sens large du terme travaillent sur ces événements de 59 en particulier? Comment elle est enseignée cette histoire aujourd'hui à Rwanda où vous trouvez, vous êtes à Kigali, je le rappelle?
C'est une histoire qui a été travaillée, celle de 1959 en particulier, beaucoup travaillée à l'Université nationale du Rwanda dans les années 2000-2010 par les historiens rwandais qui ont produit donc des textes tout à fait novateurs sur cette période qui sont revenus à 1959 et sans doute, n'est-ce pas un hasard évidemment, pour comprendre comment 1994 a pu se produire. Donc il y a eu des travaux extrêmement importants par les collègues historiens rwandais qui ont été menés au sein de l'Université nationale du Rwanda. Et puis aujourd'hui, dans les mémoriaux du génocide des Tutsis, lorsque une muséographie est disponible, eh bien évidemment, ces événements sont rappelés.
Est-ce que les nouvelles générations, les jeunes générations aujourd'hui, ont une connaissance plus ou moins précise de cette séquence de 1959?
Alors, on n'a pas d'études sur le degré de connaissance ou d'absence de connaissance, précisément d'ignorance de la jeune génération, à la fois sur cette période de 1959 jusqu'à 1964, et puis même du génocide des Tutsis en lui-même, qui s'est produit il y a 30 ans. On entend ici des discours assez contradictoires sur, d'une part, le fait que la jeune génération serait assez désinvolte vis-à-vis de cette histoire de violence, et puis, d'un autre côté, des personnes qui disent que les jeunes sont très curieux, au contraire, de savoir ce qui s'est produit. Donc c'est difficile d'apporter une réponse définitive à cette question. Et je pense que l'observation précisément des activités de la 30e commémoration permettront aussi de voir le public qui est visé lors du déploiement des cérémonies et puis des partages de paroles qui vont être organisés à partir du mois d'avril prochain et ce jusqu'en juillet.
Afrique, mémoire d'un continent.
Reprenons le fil chronologique. Grégoire Kayibanda arrive donc au pouvoir en 1961. Il en sera chassé après un coup d'État par Juvénal Habyarimana en 1973, son ministre de la Défense. Le 6 avril 1994, l'avion de ce dernier est abattu. Un attentat qui déchaîne la folie génocidaire. 800 000 morts Tutsis, un pays fracturé et des blessures vives. C'est sur ces ruines que Paul Kagame arrive au pouvoir, élu en 2000. Il redresse le pays et entame une inédite réconciliation. Hélène Dumas, vous êtes une familière de Kigali, vous connaissez bien la ville, vous connaissez bien le pays. Est-ce que les mémoires aujourd'hui, en ces années de commémoration, sont apaisées?
Le pays est apaisé. Il y a, comme vous l'avez rappelé, un travail très important à la fois de redéfinition de l'identité nationale bannie des références racistes aux ethnies Hutu et Tutsi, qui est en train de se produire depuis 30 ans. Et puis, en même temps, tout l'enjeu de cette 30e commémoration, c'est précisément la transmission, puisque aujourd'hui, 72% de la population rwandaise a 30 ans ou moins de 30 ans. Et donc le rapport, évidemment, à l'expérience du génocide est tout à fait différente. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de collègues rwandais sont actuellement en train de travailler sur ces questions de transmission intrafamiliale, intracommunautaire, de cette mémoire du génocide de 1994, mais aussi sur la transmission du traumatisme chez les enfants de rescapés du génocide. Même si on se place dans la perspective de la transmission, eh bien, on voit que l'histoire du génocide n'a pas fermé son ultime parenthèse. Et ça, je pense que c'est très important, peut-être à faire comprendre aux auditeurs qui ne sont pas familiers de ce pays et de son histoire, c'est qu'un événement comme celui-ci, eh bien, fait ressentir ses secousses pour des décennies et des décennies après qu'il s'est produit.
On ne peut manquer de faire un parallèle entre les événements de 59 et de 94. On l'a fait avec toute la prudence requise, bien sûr, mais on peut aussi noter qu'il y a toujours dans ces deux séquences des forces d'interposition, que ce soit les Belges ou les Français en 94. Que vous inspirent ces terribles réminiscences de l'histoire, Hélène Dumas ?
Moi, je suis toujours très frappée quand je lis la presse internationale sur les massacres de la Noël 63, de voir de quelle manière ils ont été dénoncés, parfois qualifiés de génocide, et que 30 ans plus tard, il ne se passe rien. Ou bien, lorsque des forces internationales sont présentes, comme la France, eh bien, c'est le gouvernement qui a préparé le génocide, mais qui le met en exécution, qui est soutenu. C'est très troublant. Je n'ai pas de réponse à apporter, sinon, d'exprimer ce trouble à la lecture des archives, 30 ans avant.
L'une des autres difficultés, Hélène Dumas, réside dans le fait que l'histoire du génocide des Tutsis fait face à beaucoup d'idées clairement révisionnistes qui ont la peau dure. Comment contrer ces idées qui blessent doublement la mémoire des victimes ?
Oui, la question du négationnisme, elle est consubstantielle à tout génocide. Tous les génocides du XXe siècle, eh bien, on fait l'objet de discours négationnistes, que ce soit celui des Arméniens ou bien celui des Juifs d'Europe. Le Rwanda, hélas, n'échappe pas à cette règle. Et aujourd'hui, je pense que la lutte contre les discours négationnistes doit aussi se placer sur le plan de l'histoire et que le travail d'histoire est peut-être l'arme la plus efficace sur le long terme contre le négationnisme.
Ce sera le mot de fin. Je vous remercie infiniment pour vos éclairages, chère Hélène Dumas. Vous êtes en duplex depuis Kigali. Je rappelle que vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, autrice de plusieurs ouvrages, Le génocide au village, Le massacre des Tutsis au Rwanda aux éditions du Seuil en 2014, mais également aux éditions de La Découverte, un livre plus récent, Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis. Merci infiniment pour vos réponses.
Merci à vous.
Afrique, mémoire d'un continent.
Ne pas enseigner l'histoire dans toute sa vérité, c'est se condamner à subir ces répétitions cruelles. C'est une responsabilité majeure, une exigence, une dette vis-à-vis des victimes. C'est elle que nous replaçons au cœur d'Afrique, mémoire d'un continent. Nous voyageons dans le passé pour éclairer le présent. Le Rwanda est une école africaine de la force, du contre-récit. Afin de contrer cette éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine, qu'il est temps de se réapproprier. C'est la fin d'Afrique, mémoire d'un continent. Vous retrouverez l'émission, bien sûr, en podcast sur RFI.fr et sur l'application Pure Radio. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraoré à la réalisation. La semaine prochaine, aux commandes à ce micro, Penaï Traoré pour l'histoire de la métallurgie.